Quatrième partie. Je continuais malgré tout à noter scrupuleusement les rêves outranciers qui m'assaillaient avec force. Mes notes, je le soutenais, avaient une vraie valeur pour l'étude de la psychologie. Les visions ressemblaient toujours diablement à des souvenirs, mais je refoulais cette impression avec un succès certain. Lorsque j'écrivais, je traitais ces fantasmes comme des choses que j'aurais vues. Le reste du temps, je les écartais comme autant d'illusions nocturnes sans consistance. Je n'avais jamais abordé ces questions dans mes conversations courantes, mais les rumeurs qui ne manquèrent pas de circuler suscitèrent diverses remarques sur ma santé mentale. Précision, car c'est amusant, que seuls des profanes répandaient ces bruits et qu'il ne se trouva pas un médecin, pas un psychologue pour s'en faire l'écho. Je ne mentionnerai ici qu'une petite partie des visions que j'eus après 1914, dans la mesure où des récits et comptes rendus plus complets sont à la disposition des chercheurs sérieux. À l'évidence, avec le temps, mes curieuses inhibitions s'estompèrent quelque peu, car le champ de mes visions devint bien plus vaste. Toutefois, elles ne furent jamais que des fragments sans lien et, selon toute apparence, dénués de motivation définie. Dans mes rêves, je jouissais d'une liberté de mouvement toujours plus grande. Je parcourais en flottant de nombreux édifices de pierre à l'architecture étrange, passant de l'un à l'autre en empruntant de colossaux passages souterrains qui me paraissaient faire office de voies de communication normales. Parfois, alors que je me trouvais au niveau le plus bas, il m'arrivait de tomber sur une de ces gigantesques trappes scellées d'où il émanait une aura de peur et d'interdit. Je voyais des bassins ou mosaïques incroyables et des salles pleines d'une variété infinie d'ustensiles aussi singuliers qu'inexplicables. Il y avait aussi des antres cyclopéens, regorgeant de machines complexes, dont la forme et l'usage m'étaient tout à fait étrangers et dont je ne perçus le bruit qu'après des années de rêve. J'en profite pour préciser que la vue et l'ouïe sont les deux seuls sens qui m'aient jamais servi dans ce monde onirique. La véritable horreur commença en 1915, quand je vis pour la première fois les créatures vivantes. C'était avant que mes recherches me renseignent, au vu des mythes et de l'historique des cas, sur ce à quoi je devais m'attendre. À mesure que les barrières mentales tombaient, je distinguais de grandes masses de vapeurs transparentes à différents endroits du bâtiment et dans les rues en contrebas. Elles devinrent progressivement plus denses et distinctes, jusqu'à ce qu'enfin je parvienne à distinguer, avec une aisance qui me mit mal à l'aise, leurs silhouettes monstrueuses. Les créatures ressemblaient à d'énormes cônes iridescents de 3 mètres de haut sur 3 mètres à la base, et était composé d'une matière striée, écailleuse et semi-élastique. Du sommet de leur corps partaient 4 membres cylindriques flexibles de 30 cm d'épaisseur et faits de la même matière rainurée. Parfois, ces membres se contractaient au point de disparaître presque totalement et, à d'autres moments, ils s'étiraient jusqu'à atteindre 3 mètres. Deux d'entre eux se terminaient par un genre de pince géante, le troisième par 4 appendices rouges en forme de trompette, et le quatrième par un globe jaunâtre et irrégulier d'une 60 cm de diamètre à l'équateur duquel s'alignaient 3 grands yeux sombres. Cette tête était surmontée de 4 minces tiges grises, dotées d'appendices ressemblant à des fleurs, tandis que, sous elles, pendillaient 8 antennes ou tentacules verdâtres. La grande base du cône central était bordée d'une substance caoutchouteuse de couleur grise qui, par ses contractions et dilatations, permettait à l'entité tout entière de se déplacer. Leurs actions, bien qu'inoffensives, m'horrifiaient encore plus que leur apparence. Car on éprouve un malaise certain à regarder des créatures monstrueuses faire ce que l'on croyait réservé aux humains. Ceux de la grande race arpentaient les vastes salles d'un pas déterminé prenait des livres sur les étagères pour aller les poser sur les gigantesques tables, ou vice-versa, et, parfois, écrivait avec application, en tenant une drôle de tige dans les tentacules verdâtres qui pendaient sous leur tête. Leurs énormes pinces leur servaient à porter les livres, mais aussi à converser, car ils communiquaient en les faisant claquer et en les frottant. Ces créatures ne portant pas de vêtements, mais des sacoches et musettes suspendues au sommet de leur tronc conique. Elles maintenaient normalement la tête, ainsi que le membre qui la soutenait, au niveau du faîte du cône, mais il n'était pas rare qu'elles la lèvent ou la baissent. Les trois autres grands membres avaient tendance à rester ballants sur les côtés du cône. Quand ils ne servaient pas, ils restaient contractés à environ 1,50 m de longueur. Étant donné la vitesse à laquelle ces êtres lisaient, écrivaient et manipulaient leurs machines, celles qui étaient posées sur les tables semblaient reliées à leurs pensées. Je conclus que leur intelligence dépassait de beaucoup celle de l'homme. Par la suite, je les vis partout, grouillant dans toutes les grandes salles et les couloirs, s'occupant de machines monstrueuses dans des cryptes voûtées et filant sur les vastes routes dans leurs gigantesques voitures en forme de bateau. Je cessais d'avoir peur d'eux, car ils paraissaient suprêmement bien intégrés à leur environnement. Je commençais à percevoir des différences entre les individus, dont quelques-uns donnaient l'impression d'être soumis à quelques contraintes. Ces derniers, sans présenter de particularités physiques, se démarquaient de la majorité, mais aussi en grande partie les uns des autres par divers gestes et habitudes. Ils écrivaient beaucoup en se servant de caractères qui, à mes yeux profanes, paraissaient fort variés, mais sans jamais avoir recours aux habituels hiéroglyphes curvilignes de leurs congénères. Il me sembla même qu'une poignée d'entre eux utilisait notre alphabet. Pour la plupart, ils travaillaient bien plus lentement que l'ensemble des autres créatures de ce monde. Pendant tout ce temps, je ne fus rien de plus, dans ces rêves, qu'une conscience désincarnée, dotée d'un champ de vision supérieur à la normale, flottant librement mais dans les limites des voies de communication et vitesses de déplacements ordinaires. Avant août 1915, je ne fus jamais tourmenté par la moindre impression d'existence corporelle. Si j'emploie le mot « tourmenté », c'est parce que, dans la première phase, j'associais, de manière purement abstraite mais infiniment effroyable, les scènes de mes visions à la répugnance que m'inspirait mon corps, répugnance dont j'ai déjà parlé. Pour un temps, je passais surtout mes rêves à éviter de me regarder. D'ailleurs, je me félicitais de l'absence totale de miroir dans les étranges salles. J'étais extrêmement perturbé de constater que je voyais toujours les grandes tables, dont la hauteur ne pouvait être inférieure à 3 mètres, en hauteur et non du dessous. Mais la tentation morbide de m'examiner se fit de plus en plus irrésistible, et je finis par y céder. Tout d'abord, le coup d'œil que je jetais vers le bas ne révéla strictement rien. Je compris bien vite pourquoi. Ma tête se trouvait à l'extrémité d'un cou flexible démesurément long. Je le rétractai donc et, baissant très brusquement la tête, je découvris la masse écailleuse, rugueuse et iridescente d'un gigantesque cône de 3 mètres de hauteur et de base. Les hurlements que je poussais en remontant frénétiquement des profondeurs du sommeil réveillèrent la moitié d'Arkham. Il me fallut répéter l'expérience pendant des semaines pour commencer à m'habituer à me voir sous une forme aussi monstrueuse. Dans mes rêves, je me déplaçais désormais physiquement parmi les autres entités inconnues. Je lisais de terribles livres pris sur les étagères interminables et installés à l'une des grandes tables, écrivait des heures durant à l'aide d'un stylet que maniaient les tentacules verts sous ma tête. Des fragments de ce que je lisais ou écrivais me restaient en mémoire. Il était question des atroces annales d'autres mondes, d'autres univers, et de l'éveil d'une vie sans forme, extérieure à tous les univers. Il y avait aussi des récits sur des êtres appartenant à des ordres étranges et qui avaient peuplé le monde à des époques oubliées, et les effrayantes chroniques de créatures intelligentes au corps grotesque qui le peupleraient des millions d'années après la disparition du dernier homme. Je découvris des chapitres de l'histoire humaine dont aucun de nos savants n'a jamais soupçonné l'existence. La plupart de ces textes étaient rédigés en hiéroglyphes. Étudiant ce langage par un moyen étrange, à l'aide de machines vrombissantes, je constatai qu'il s'agissait d'une langue agglutinante, dont le système de racines était absolument différent de tout ce que l'on trouvait dans les idiomes des humains. Certains volumes utilisaient d'autres langues inconnues, que j'appris par le même moyen. Un très petit nombre d'ouvrages étaient écrits dans des langues que je possédais. De très habiles illustrations insérées dans les livres ou formant des collections séparées m'apportaient une aide fort précieuse. Et pendant tout ce temps, je rédigeais en anglais l'histoire de ma propre époque. À mon réveil, je ne gardais de ces langues étranges apprises par mon moi onirique que d'infimes fragments sans signification. En revanche, des expressions entières de mon livre me restaient en tête. J'appris, et ce avant même que mon moi éveillé ait étudié les cas similaires aux miens ou les mythes ayant sans aucun doute donné naissance à ces rêves, que les entités qui m'entouraient appartenaient à la race la plus évoluée du monde, une race qui avait conquis le temps et envoyé des esprits explorer tous les âges. Je savais de plus que l'on m'avait arraché à mon époque, tandis qu'un autre occupait mon corps dans le futur, et que quelques-unes des autres créatures bizarres abritaient elles aussi des esprits captifs. Je conversais dans cet étrange langage composé de cliquetis de pinces avec des intelligences exilées de tous les coins du système solaire. Il y avait un esprit de la planète que nous appelons Vénus qui, dans l'avenir, vivrait un nombre incalculable d'ères, et un autre venu d'un des satellites les plus éloignés de Jupiter et d'une époque située 6 millions d'années dans le passé. Parmi les esprits terrestres, certains appartenaient à l'espèce ailée semi-végétale à tête en forme d'étoile de l'Antarctique paléogène. Il y en avait un du peuple reptilien de la légendaire Valusia. 3 préhumains hyperboréens à fourrure, adorateurs de Tsatogua. Un individu de la race tout à fait abominable des Cho-Cho. 2 habitants arachnéens du dernier âge de la pierre. 5 de la robuste espèce coléoptère qui succédera aux humains et dans laquelle la grande race, face à un péril extrême, transférera un jour tous ses meilleurs penseurs. Enfin étaient représentées différentes branches de l'humanité. Je discutais avec l'esprit de Yang Li, philosophe du cruel empire de Tsanshan, empire qui naîtra en 5000 après Jésus-Christ, avec un général du peuple à tête massive et à peau brune qui régnait sur l'Afrique du Sud 50 000 ans avant notre ère, avec un moine florentin du XIIe siècle nommé Bartolomeo Corsi, et un roi du Lomar qui gouvernait cette terrible terre polaire 100 000 ans avant que les Inutos trapus à peau jaune viennent de l'ouest pour l'envahir. Je conversais avec l'esprit de Nuxot, magicien des conquérants noirs de l'an 16 000 de notre ère, avec celui d'un Romain dénommé Titus Sempronius Blaesus, qui fut questeur sous Sylla, et celui de Kefnes, égyptien de la 14e dynastie qui me révéla le hideux secret de Nyarlathotep, et avec un prêtre du Moyen Empire d'Atlantide, avec James Woodville, gentilhomme du Suffolk contemporain de Cromwell, avec un astronome de la cour dans le Pérou pré-Inca, et avec le physicien australien Neville Kingston Brown, qui mourra en 2518, et aussi avec l'esprit d'un archimage du royaume disparu de Yé, dans le Pacifique, et celui de Théodotide, fonctionnaire gréco-bactrien en l'an 200 avant Jésus-Christ, et celui d'un vieux français du temps de Louis XIII nommé Pierre-Louis Montagnier, et aussi celui de Cromia, chef cimérien en 15 000 avant notre ère, et avec tant d'autres que mon cerveau est incapable de retenir les secrets choquants et les merveilles étourdissantes qu'il m'avait appris. Tous les matins, au réveil, j'étais sujet à une forte tension nerveuse. Parfois, je consacrais toute mon énergie à essayer de confirmer ou d'infirmer les informations vérifiables dans l'état actuel des connaissances humaines. Les faits traditionnels prenaient des aspects nouveaux et douteux, et je m'émerveillais de découvrir tout ce que les fantasmes oniriques pouvaient ajouter de prolongement à l'histoire et à la science. Je frissonnais devant les mystères que le passé pouvait receler, et tremblais à l'idée des menaces que le futur apporterait peut-être. Ce que les propos des entités post-humaines suggéraient sur le sort de l'humanité me fit un effet tel que je me refuse à les coucher sur le papier. Après l'homme viendrait la puissante civilisation des coléoptères, dont l'élite de la grande race s'approprierait les corps quand le destin implacable s'abattrait sur le monde ancien. Plus tard, quand la Terre approcherait du terme de sa vie, les esprits transférés, reprenant leur migration à travers l'espace et le temps, feraient une nouvelle escale dans le corps bulbeux des entités végétales de Mercure. Toutefois, il y aurait encore des espèces après leur départ. Elles s'accrocheraient pathétiquement à la planète froide et s'enfouiraient dans son cœur perclus d'horreur avant que survienne la fin véritable. Cependant, dans mes rêves, je rédigeais inlassablement l'histoire de mon époque que je destinais, à moitié de mon plein gré, à moitié parce qu'on me promettait une plus grande liberté de mouvement et d'accès aux bibliothèques, aux archives centrales de la grande race. Ces archives se trouvaient dans une colossale structure souterraine, non loin du centre de la ville, structure que je finis par bien connaître à force d'y travailler et d'y consulter des documents. Prévue pour durer aussi longtemps que la grande race et résister aux pires convulsions de la Terre, ce titanesque entrepôt surpassait tous les autres édifices par sa structure massive, aussi inébranlable qu'une montagne. Les documents, manuscrits ou imprimés sur de grandes feuilles de tissu cellulosique, étonnamment résistants, étaient reliés de manière à former des livres qui s'ouvraient par le haut et que l'on rangeait dans des étuis individuels faits d'un étrange métal grisâtre, extrêmement léger et inoxydable. Les étuis étaient ornés de dessins mathématiques et d'un titre dans l'écriture hiéroglyphique curviligne de la grande race. Les ouvrages étaient entreposés dans des coffres rectangulaires, sortes de rayonnages verrouillés, rangés sur plusieurs niveaux. Les 10 coffres étaient forgés dans le même métal inoxydable et fermés par des boutons aux combinaisons complexes. L'histoire que je rédigeais avait sa place réservée parmi les coffres du plus bas niveau, celui des vertébrés, une section consacrée à la culture de l'humanité et des races à fourrure et reptiliennes qui l'avaient immédiatement précédée dans l'historique de la domination terrestre. Mais jamais un rêve ne me donna un aperçu complet de la vie quotidienne. Je n'en voyais que des fragments nébuleux, sans lien entre eux et très certainement dans le désordre. Par exemple, je n'ai qu'une idée très approximative de l'organisation de ma vie dans le monde onirique, même si je crois y avoir possédé une grande chambre de pierre. Les restrictions que l'on m'imposait en tant que prisonnier disparurent progressivement, si bien que je me voyais parfois faire de passionnants périples au-dessus des impressionnantes routes traversant les jungles, séjourner dans des villes étonnantes et, même parfois, explorer certaines de ces immenses ruines sombres sans fenêtres que ceux de la grande race évitaient, victimes d'une peur singulière. Je fis aussi de longs voyages en mer, dans de gigantesques bateaux à ponts multiples qui se déplaçaient à une vitesse incroyable, mais aussi au-dessus des régions inhabitées, à bord de dirigeables fermés en forme de projectiles, soulevés et mus par propulsion électrique. Par-delà le vaste océan chaud se dressaient d'autres villes de la grande race, et sur un lointain continent, je vis les villages rudimentaires des créatures ailées à museau noir qui évolueraient jusqu'à devenir une espèce dominante après que la grande race aurait renvoyé la crème de ses esprits dans le futur afin qu'ils échappent à l'horreur sournoise. Le paysage était invariablement marqué par l'absence de relief et une verdure exubérante. Les collines basses et éparses montraient en général des signes d'activité volcanique. Je pourrais écrire des livres entiers sur les animaux que je vis. Tous étaient sauvages, car la civilisation mécanique de la grande race s'était depuis longtemps débarrassée des bêtes domestiques. Quant à la nourriture, elle était soit d'origine végétale, soit synthétique. De maladroits reptiles à l'impressionnante corpulence pataugeaient dans des marais fumants, voletaient dans l'air lourd ou crachaient de l'eau à la surface des mers et des lacs. Je croyais vaguement reconnaître les prototypes inférieurs et archaïques de nombreux animaux, dinosaures, ptérodactyles, ichthyosaures, labyrinthodontes, plésiosaures et autres créatures rendues familières par la paléontologie. En revanche, je ne vis jamais le moindre oiseau, ni le plus petit mammifère. Le sol et les marais grouillaient constamment de serpents, de lézards et de crocodiles, tandis que les insectes bourdonnaient en permanence au cœur de la végétation luxuriante. Et sur l'océan, loin à l'abri des regards, des monstres marins inconnus crachaient de titanesques colonnes d'écume dans le ciel chargé de vapeurs. Une fois, on m'emmena sous la surface de la mer à bord d'un gigantesque sous-marin muni de projecteurs, et j'aperçus d'horribles créatures vivantes d'une taille formidable. Je vis aussi les ruines d'incroyables villes englouties et les formes de vie crinoïdes, brachiopodes, coralliennes et ichthyoïdes qui partout pullulaient. Mes visions ne recelaient que peu d'informations sur la physiologie, la psychologie, les coutumes et l'histoire détaillée de la grande race, et beaucoup des éléments disparates exposés dans ces pages furent glanés au fil de mes recherches sur les vieilles légendes et les autres cas plutôt que dans mes propres rêves. Car bien entendu, avec le temps, mes lectures et études finirent par rattraper, et bien souvent, devancer ces derniers, si bien que certains fragments de vision s'expliquèrent à l'avance et servirent à confirmer ce que j'avais lu. Cela me rassura, puisque mon hypothèse selon laquelle les recherches similaires de mon moi secondaire avaient fourni la trame de ces effroyables pseudo-souvenirs s'en trouvait validée. Apparemment, l'époque de mes rêves remontait à un peu moins de 150 millions d'années, au moment où le paléozoïque faisait place au mésozoïque. Les corps occupés par la grande race n'avaient aucun descendant survivant ou connu des scientifiques dans l'évolution terrestre, mais appartenaient à un type organique singulier, à la fois très homogène et hautement spécialisé, tenant autant du végétal que de l'animal. Le fonctionnement de leurs cellules d'un genre unique les rendait presque insensibles à la fatigue et éliminait tout besoin de sommeil. La nourriture, absorbée par les appendices rouges en forme de trompette fixée à l'un de leurs grands membres flexibles, était toujours semi-liquide et, à bien des égards, n'avait rien en commun avec les aliments qu'absorbaient tous les animaux existants. Ces créatures ne possédaient que deux des sens que nous connaissons, la vue et l'ouïe, cette dernière ayant pour organe les appendices en forme de fleurs reliés à leur tête par des pédoncules gris. Elles possédaient bien d'autres sens, fort incompréhensibles et peu utilisables par les esprits étranges et prisonniers de leur corps. La position de leurs trois yeux leur donnait un champ de vision plus large que la normale. Leur sang était une sorte de liquide purulent vert foncé et très épais. Elles n'avaient pas de sexe, mais se reproduisaient au moyen de graines et de spores amalgamées à la base du cône et qui ne pouvaient se développer que sous l'eau. Leurs petits se développaient dans de grands bassins peu profonds. On n'en élevait qu'un petit nombre à la fois, étant donné l'espérance de vie de l'espèce qui, normalement, était de 4 ou 5 000 ans. Les individus présentant un net défaut étaient éliminés aussitôt que les imperfections étaient détectées. En l'absence de sens du toucher ou de capacité à ressentir la douleur physique, la maladie et l'approche de la mort se reconnaissaient exclusivement à leurs symptômes visuels. on incinérait les morts en grande pompe. De temps à autre, comme je l'ai dit, un esprit brillant échappait à la mort en se projetant en avant dans le temps. Toutefois, les cas de ce genre restaient rares. Quand il s'en présentait un, l'esprit expulsé du futur était traité avec la plus grande bienveillance, jusqu'à dissolution de ce corps inconnu. La grande race semblait former une unique nation, ou une union aux liens assez lâches partageant des institutions majeures, mais composée de quatre groupes bien distincts. Le système politique et économique de chaque faction était une sorte de socialisme fasciste. Les principales ressources étaient rationnellement réparties, et le pouvoir était confié à un petit conseil d'administration, élu par les suffrages de tous les individus ayant passé avec succès certains tests scolaires et psychologiques. La société n'accordait pas d'importance particulière à la cellule familiale, mais on reconnaissait les liens entre personnes de même ascendance, les jeunes étant en général élevés par leurs parents. Les ressemblances avec les attitudes et institutions humaines, bien sûr, étaient surtout visibles dans les domaines relevant d'éléments très abstraits, ou au contraire, dans les cas dominés par les pulsions élémentaires communes à toutes les formes de vie organique. Les quelques autres similitudes venaient des habitudes que la grande race avait choisi d'adopter après avoir sondé le futur et y avoir pioché ce qui lui plaisait. L'industrie, extrêmement mécanisée, ne demandait que peu de temps aux citoyens, qui occupaient leur considérable temps libre avec diverses activités intellectuelles et esthétiques. Les sciences avaient atteint un niveau incroyablement évolué, et l'art était une composante essentielle de la vie, même si, à l'époque où se situaient mes rêves, l'âge d'or de la civilisation était passé. La lutte incessante pour la survie et la nécessité de préserver la structure matérielle des grandes villes face aux prodigieux bouleversements géologiques de ces temps primitifs stimulait grandement les progrès technologiques. La criminalité, étonnamment faible, se heurtait à la grande efficacité des forces de l'ordre. Les châtiments allaient de la privation de privilèges à la mort, en passant par l'emprisonnement, ou un violent déchirement émotionnel. On ne les infligeait jamais sans un examen méticuleux des motivations du coupable. Les guerres, pour la plupart civiles au cours des derniers millénaires, mais parfois menées contre des envahisseurs reptiliens ou octopodes, ou contre les anciens ailés à tête en forme d'étoile concentrée en Antarctique, étaient peu fréquentes mais effroyablement dévastatrices. Une armée gigantesque, munis d'armes ressemblant à des appareils photographiques et produisant d'impressionnants phénomènes électriques, se tenait prête à intervenir. On ne disait pas vraiment dans quelle éventualité, mais il était évident que ceux de la grande race vivaient dans la peur constante des antiques ruines sombres et sans fenêtres et des grandes trappes scellées des niveaux souterrains les plus bas. Cette peur était presque toujours tacite ou, tout au plus, l'objet de murmures vagues et furtifs. Les livres que l'on trouvait en général sur les étagères ne comportaient jamais la moindre référence, un tant soit peu précise, à ces tours de basalte et à ces portes. Cette absence était parlante. C'était l'unique sujet tabou chez les individus de la grande race. Leurs craintes semblaient liées à des luttes passées, autant qu'à ce péril futur qui finirait par pousser les plus grands esprits de cette civilisation à l'exode temporel. Si imparfaite et fragmentaire que soit la présentation des autres sujets dans les rêves et légendes, cette question-ci était encore plus obscure et déconcertante. Les vieux mythes confus l'évitaient, à moins qu'on ne les ait expurgés à dessein de toute référence à son propos. Quant aux rêves, qu'il s'agisse des miens ou de ceux des autres, les indices y étaient particulièrement peu nombreux. Ceux de la grande race n'abordaient jamais la question intentionnellement, et le peu de renseignements que je pus glaner provient de certains esprits captifs particulièrement observateurs. Ces bribes d'informations laissent entendre que l'objet de cette crainte était une antique race d'entités de forme semi-polypeuse, des êtres totalement étrangers à ce monde qui, au terme d'un voyage incommensurable à travers l'espace, avaient envahi la Terre et trois autres planètes du système solaire voici environ 600 millions d'années. Ces créatures n'étaient que partiellement matérielles, selon notre conception de la matière, et leur type de conscience, leur mode de perception, étaient très différents de ceux des organismes terrestres. Par exemple, elles n'étaient pas dotées du sens de la vue. Leur univers mental était donc composé d'un étrange réseau d'impressions non visuelles. Cependant, elles étaient suffisamment matérielles pour se servir d'objets de consistance normale dans les régions cosmiques où elles en trouvaient. Elles avaient aussi besoin d'un logement, bien que d'un genre fort particulier. Leur sens était capable de traverser les obstacles solides, mais leur corps en était incapable. Certaines formes d'énergie électrique pouvaient même les détruire. Elles avaient la faculté de se déplacer dans l'air, et ce, malgré l'absence d'ailes ou de tout autre organe visible de lévitation. Leur esprit était bâti de telle manière que ceux de la grande race ne pouvaient pas faire d'échange avec elles. À leur arrivée sur Terre, ces créatures avaient érigé de formidables cités de basalte autour sans fenêtres et fait d'horribles ravages chez les êtres vivants qu'elles avaient trouvés. Telle était la situation lorsque les esprits de la grande race étaient parvenus sur Terre, après avoir franchi le vide depuis cet obscur monde du bout de la galaxie, monde nommé Yit dans les troublants et contestables fragments d'Eltdown. Les nouveaux venus, grâce aux machines qu'ils avaient créées, n'avaient eu aucun mal à soumettre les entités prédatrices et à les repousser dans les cavernes souterraines qu'elles avaient déjà reliées à leur demeure et commencé à habiter. Alors, ceux de la grande race avaient scellé les issues et abandonné les créatures à leur sort. Par la suite, ils avaient occupé la plupart des grandes cités, allant même jusqu'à conserver certains bâtiments importants pour des raisons relevant davantage de la superstition que de l'indifférence, de l'audace ou d'un zèle scientifique ou historique. Mais à mesure que passaient les airs, des signes vagues mais sinistres indiquaient que les êtres anciens grandissaient en force et en nombre dans les entrailles de la Terre. Il y eut des irruptions sporadiques, mais particulièrement abominables dans de petites villes isolées, mais aussi dans certaines cités désertes où ceux de la grande race ne s'étaient jamais installés. Des lieux où les passages menant aux abysses n'étaient ni correctement scellés, ni bien gardés. Après quoi on avait redoublé de précautions. Bien des issues furent bouchées à jamais. Toutefois, on conserva quelques trappes scellées à des fins stratégiques, afin de combattre les anciens s'ils venaient à surgir en des lieux inattendus. Les irruptions des créatures avaient dû être d'une indescriptible atrocité, car elles avaient influencé pour toujours la psychologie de la grande race. Le sentiment d'horreur laissé par ces attaques était si tenace que l'on ne parlait même pas de l'apparence de ces êtres. Jamais je ne pus avoir le moindre indice sur leur apparence. Au travers d'allusions voilées, je crus comprendre qu'ils étaient doués d'une incroyable plasticité, mais aussi d'invisibilité temporaire. D'autres murmures fragmentaires faisaient état de leur contrôle des grands vents, notamment à des fins militaires. On leur associait, semble-t-il, de singuliers sifflements et de colossales empreintes de pas circulaires composées de 5 orteils. À l'évidence, le sort que la grande race redoutait, ce cataclysme qui devait un jour la pousser à envoyer, à travers l'abîme du temps, des millions d'esprits brillants s'emparer de corps étrangers dans un futur plus sûr, était lié à une dernière attaque victorieuse des êtres anciens. Les projections mentales dans l'avenir avaient clairement prédit ce destin monstrueux, et la grande race avait décidé que tous ceux qui pourraient y échapper devraient le faire. L'histoire future de la Terre prouvait que l'attaque ne viserait pas à reprendre possession du monde, mais serait une affaire de pure vengeance. En effet, comme le montraient les projections, par la suite, les espèces se succéderaient sans jamais que les monstrueuses entités viennent les inquiéter. Peut-être les anciens avaient-ils fini par préférer les entrailles de la terre à sa surface changeante et ravagée par les tempêtes, puisque la lumière n'avait aucune importance pour eux, à moins qu'ils se soient affaiblis au fil des airs. On sait en tout cas qu'ils seraient tous morts à l'époque de l'espèce coléoptère posthumaine qui abriterait les esprits en fuite. En attendant, la grande race montait la garde, ses puissantes armes toujours prêtes, bien que le sujet soit frappé d'un bannissement horrifié dans les conversations comme dans les documents accessibles. Et l'ombre de l'indicible peur planait encore et toujours autour des trappes scellées et des vieilles tours sans fenêtres. Cinquième partie. Tel est le monde dont mes rêves m'apportaient chaque nuit les échos confus et épars. Je ne puis espérer donner une idée exacte de l'horreur et de l'effroi qu'évoquaient ces visions, car ces sentiments reposaient principalement sur un élément tout à fait intangible, la perception aiguë de ces pseudo-souvenirs. Comme je l'ai déjà dit, mes recherches me donnaient progressivement un moyen de défense contre ces sentiments sous la forme d'explications psychologiques rationnelles, et cette influence salvatrice était renforcée par l'accoutumance qui s'installe à notre insu au fil du temps. Pourtant, malgré tout, il arrivait de temps à autre que la terreur vague, insidieuse, refasse son apparition. Cependant, elle ne m'obsédait plus autant qu'avant, si bien qu'après 1922, je repris une vie tout à fait normale, entre travail et détente. Les années passant, je formais le projet de mettre clairement par écrit mon expérience, ainsi que les cas apparentés et le folklore qui les entourait, et de publier tout cela à l'intention des chercheurs sérieux. Je préparais donc une série d'articles résumant tout le sujet et illustrés de croquis grossiers des formes, scènes, motifs décoratifs et hiéroglyphes vus dans mes rêves. Ils parurent à divers moments des années 1928 et 1929 dans la revue de la Société américaine de psychologie, mais ne suscitèrent que peu d'intérêt. Pendant ce temps, je continuais de noter mes rêves dans les moindres détails, même si ma pile des comptes rendus commençait à prendre des proportions gênantes. Le 10 juillet 1934, la Société de psychologie me transmit la lettre qui ouvrit le chapitre le plus fort et le plus dur de toute cette épreuve insensée. Le cachet indiquait qu'elle avait été postée à Pilbara, en Australie occidentale, et elle portait la signature d'un homme qui, après enquête, se révéla être un ingénieur des mines de premier plan. L'enveloppe contenait de bien curieuses photographies. Je vais reproduire cette lettre dans son intégralité, et le lecteur ne pourra manquer de comprendre l'immense effet que le texte et les clichés eurent sur moi. Je restais un moment interdit, presque paralysé par la stupeur, car même si j'avais souvent pensé que les différentes étapes des légendes qui avaient influencé mes rêves devait s'inspirer d'éléments factuels, je n'étais pas prêt à découvrir dans cette lettre une preuve tangible d'un monde perdu depuis si longtemps que cela défiait l'imagination. Le plus bouleversant, c'était les photographies. Sous mes yeux, avec un réalisme froid et irréfutable, se découpaient sur fond de sable des blocs de pierres érodées, striés sous l'effet des eaux, patinés par les intempéries. Leur forme, légèrement convexe sur le dessus et concave en dessous, ne laissait aucun doute sur leur histoire. Un examen à la loupe me permit de voir clairement sur la pierre abîmée les vestiges de grands dessins curvilignes parsemés de hiéroglyphes, motif qui était devenu pour moi synonyme d'effroi. Mais voici la lettre qui parle d'elle-même. 49 Dampier Street, Pilbara, Australie occidentale. Le 18 mai 1934, professeur N.W. Peasley, au bon soin de la Société américaine de psychologie, 30 Est 41e rue, New York City, USA. Cher monsieur, suite à une récente conversation avec le docteur Ian Boyle de Perth Et ayant lu vos articles dans les revues qu'il vient de m'envoyer, je crois bon de vous faire part de certaines choses que j'ai aperçues dans le grand désert de sable à l'est du gisement aurifère où je travaille. Il semblerait, au vu des singulières légendes à propos des villes antiques dont vous décrivez l'architecture monumentale et les étranges motifs et hiéroglyphes, que j'ai fait une découverte très importante. Les indigènes ont toujours été intarissables sur les « grosses pierres couvertes de marques » et qu'ils craignent apparemment au plus haut point. Ils semblent les croire liés, de près ou de loin, aux légendes aborigènes au sujet de Budai, le vieillard géant qui dort sous terre depuis une éternité, la tête sur le bras, et qui, un jour, se réveillera pour dévorer le monde. De très vieux contes à moitié oubliés parlent d'énormes huttes souterraines, faites de gros blocs de pierre, dont les passages s'enfoncent dans les entrailles de la terre, et où se sont produites des choses terribles. Les indigènes affirment qu'autrefois, des guerriers fuyant en pleine bataille en empruntèrent un et ne revinrent jamais, et que des vents effrayants jaillirent bientôt de la galerie dans laquelle ils s'étaient engouffrés. Cependant, ce que racontent ces gens est généralement dénué de fondement. Mais j'ai autre chose de plus intéressant à vous dire. Il y a 2 ans, alors que je prospectais dans le désert, à environ 800 kilomètres à l'est, je tombais sur une grande quantité de pierres de taille étrange, d'à peu près 90 cm de long sur une 60aine de haut et de profondeur, rongées et grêlées à l'extrême. De prime abord, je ne trouvais aucune des marques dont les indigènes m'avaient parlé. Mais en y regardant de plus près, je distinguais, en dépit de l'érosion, de profondes lignes gravées. Il s'agissait de courbes particulières, exactement comme celle que les aborigènes s'étaient efforcés de décrire. Et sur un périmètre de peut-être 400 mètres, je pense qu'il y avait 30 ou 40 blocs, dont certains étaient presque entièrement enfouis sous le sable. Et quand je vis les premiers, j'en cherchais d'autres autour de moi, et à l'aide de mes instruments, je fis des relevés précis sur l'emplacement du site. Je pris aussi une dizaine de clichés des blocs les plus caractéristiques, clichés que je joins à la présente lettre. J'envoyais relevé et photographie au gouvernement à Perse, mais personne ne donna suite. Je fis alors la connaissance du docteur Boyle, qui avait lu vos articles dans la revue de la Société américaine de psychologie, et au bout d'un moment, j'en vins à parler des pierres. Cela l'intéressa au plus haut point. Il s'enthousiasma à la vue de mes photographies et affirma que les pierres et les marques étaient identiques à celles des murs que vous aviez vus en rêve et dont vous aviez entendu la description dans diverses légendes. Il comptait vous écrire, mais manquait de temps. En attendant, il m'envoya la plupart des magazines contenant vos articles, et, à vos dessins et descriptions, je vis tout de suite que mes pierres étaient assurément identiques à celles dont vous parliez. Vous apprécierez la ressemblance en regardant les photographies. Le docteur Boyle vous joindra en personne quand il le pourra. Je comprends maintenant l'importance que tout cela revêt pour vous. Nous nous trouvons sans aucun doute face aux vestiges d'une civilisation inconnue, plus ancienne que tout ce dont on a pu rêver jusqu'ici et qui inspira vos légendes. En tant qu'ingénieur des mines, j'ai certaines connaissances en matière de géologie, ce qui m'autorise à vous dire que ces blocs sont effroyablement vieux. Il s'agit surtout de grès et de granit, mais l'un d'eux est presque certainement fait d'un genre curieux de ciment ou de béton. Il porte des stigmates d'érosion, comme si cette partie du monde avait été submergée et était ressortie des eaux après un temps fort long, en l'occurrence depuis la taille et l'utilisation de ces pierres. Nous parlons ici de centaines de milliers d'années, voire plus, qui sait. Je préfère ne pas y penser. Sachant l'application avec laquelle vous avez mené vos recherches sur ces légendes et tout ce qui s'y rapporte, je ne doute pas que vous voudrez monter une expédition pour aller faire des fouilles archéologiques dans le désert. Le docteur Boyle et moi-même sommes prêts à vous aider dans cette entreprise si vous, ou des organismes de votre connaissance, êtes en mesure de fournir les fonds. Je peux réunir une dizaine de mineurs pour les gros travaux de terrassement. Les aborigènes ne nous seraient d'aucun secours puisque, comme je m'en suis aperçu, cet endroit leur inspire une peur quasi pathologique. Boyle et moi ne parlerons à personne de cette affaire. La priorité et le crédit vous revenant bien évidemment sur les découvertes que nous pourrions faire. Pour se rendre sur les lieux depuis Pilbara, il faut 4 jours en tracteur à moteur, véhicule dont nous aurions de toute façon besoin pour notre matériel.
Le site est au sud-ouest de l'itinéraire de Warburton en 1873 et à 160 km au sud-est de Johanna Spring. Nous pourrions aussi acheminer le matériel par le fleuve de Grès au lieu de partir de Pilbara, mais nous parlerons de ces détails plus tard. Les pierres se trouvent approximativement à 22 degrés 3 minutes 14 secondes de latitude sud et 125 degrés 0 minutes 39 secondes de longitude est. Le climat est tropical, le désert éprouvant. Si expédition il y a, elle doit être menée en hiver, c'est-à-dire en juin, juillet et août. Je serais heureux de correspondre sur ce sujet et désire vivement vous assister, quel que soit le projet que vous envisagerez. Depuis que j'ai lu vos articles, je suis intimement convaincu que toute cette affaire revêt une importance capitale. Le docteur Boyle vous écrira bientôt. En cas d'urgence, un câble à Perse peut être relayé par TSF. Dans l'espoir sincère d'une réponse rapide, je vous prie de croire, monsieur, à mes sentiments dévoués. Robert B.F. Mackenzie.
Le lecteur trouvera bien des renseignements sur les suites immédiates de cette lettre dans la presse de l'époque. J'eus la grande chance d'obtenir le soutien de l'université Miskatonic. Quant à M. Mackenzie et au Dr Boyle, ils m'apportèrent tous deux une aide inestimable en préparant le terrain en Australie. Nous n'expliquâmes pas les détails de notre projet au public, de peur que l'affaire donne lieu à des articles à sensation ou facétieux dans certains journaux bon marché. En conséquence, les reportages ne furent pas nombreux, mais il y en eut assez pour faire connaître notre projet de fouille dans des ruines récemment découvertes en Australie et raconter les différentes phases préparatoires de l'entreprise. M'accompagnait le professeur William Dyer du département de géologie, chef de l'expédition antarctique de l'université en 1930-1931. Ferdinand C. Ashley, du département d'histoire ancienne. Tyler M. Freeborn, du département d'anthropologie, ainsi que mon fils Wingate. Mon correspondant Mackenzie arriva à Arkham au début de l'année 1935 pour nous assister dans nos derniers préparatifs. Ce quinquagénaire affable s'avéra extrêmement compétent, admirablement cultivé et disposait d'une parfaite connaissance des conditions d'un voyage en Australie. Il avait fait en sorte que des tracteurs nous attendent à Pilbara. Nous affrétâmes un cargo à vapeur de tonnage suffisamment faible pour remonter le fleuve jusque-là. Nous étions préparés à mener une fouille des plus minutieuses et scientifiques, à passer au crible le moindre grain de sable sans déranger quoi que ce soit qui nous paraisse être plus ou moins dans sa position d'origine. Nous quittâmes Boston le 28 mars 1935, à bord du poussif Lexington, et après un voyage fort lent qui nous vit traverser l'Atlantique et la Méditerranée, passer le canal de Suez, puis la mer Rouge, et franchir l'océan Indien, nous arrivâmes à bon port. Inutile de dire combien la vue de la côte basse et sableuse de l'Australie occidentale me démoralisa. Combien je détestais la rudimentaire ville minière et la platitude des gisements aurifères où l'on chargeait une dernière fois les tracteurs. Le docteur Boyle, qui nous rejoignit, était un vieil homme agréable et intelligent, et ses connaissances en psychologie l'amenèrent bien souvent à discuter longuement avec mon fils et moi. Avec un curieux mélange d'inconfort et d'expectative dans la plupart des esprits, les 18 hommes de l'expédition entamèrent enfin dans un grand fracas leur traversée des lieux arides de sable et de roches. Le vendredi 31 mai, nous franchîmes à gué un bras du fleuve de Grès et entrâmes dans le royaume de l'infinie désolation. Une franche terreur s'empara de moi à mesure que nous approchions du site véritable de son monde ancien, qui avait inspiré les légendes, terreur bien entendu renforcée par les rêves et pseudo-souvenirs dérangeants qui continuaient de m'assaillir avec la même vigueur. C'est le lundi 3 juin que nous vîmes les premiers blocs à moitié enfouis. Je ne saurais décrire les émotions qui m'étreignirent lorsque je touchais pour de vrai, dans la réalité objective, un fragment d'architecture cyclopéenne en tout point semblable aux moellons constituant les murs des bâtiments de Bérève. Il était évident que la pierre avait été gravée, et mes mains tremblèrent quand je reconnus une partie du motif curviligne décoratif que des années d'insupportables cauchemars et de recherches déconcertantes avaient rendu épouvantable à mes yeux. Au bout d'un mois de fouilles, nous avions exhumé quelque 1250 blocs à différents stades d'usure et de désagrégation. Pour la plupart, il s'agissait de mégalithes sculptés au sommet et au-dessous incurvés. Quelques-uns étaient plus petits et plats, dénués de gravures, et rectangulaires ou taillés en octogones, comme les pierres des sols échaussées dans mes rêves. Enfin, une poignée d'entre eux était étonnamment massifs, et leurs formes courbes ou obliques suggéraient qu'ils avaient pu faire partie de voûtes ou d'arêtes, d'arches ou de chambranles de fenêtres circulaires. Plus nous creusions profond et vers le nord-est, plus nous déterrions de blocs. En revanche, nous ne parvenions toujours pas à déceler le moindre signe d'organisation dans leur disposition. Le professeur, d'ailleurs, découvrait avec atterrement ces fragments d'un âge inconcevable. Freeborn, lui, trouvait ici et là des vestiges de symboles rappelant de sinistres manières certaines légendes papoues ou polynésiennes non moins anciennes. Mieux que les mots, l'état et la dispersion des blocs évoquaient des cycles temporels vertigineux et des cataclysmes géologiques d'une brutalité cosmique. Nous avions un aéroplane avec nous, et mon fils Wingate montait souvent à différentes altitudes pour scruter le désert de sable et de roches à la recherche de vagues contours à grande échelle, soit des variations dans la hauteur du sol, soit des traînées de blocs éparpillés. Ses résultats étaient pour ainsi dire nuls, car chaque fois qu'il pensait avoir aperçu un tracé significatif, la sortie du lendemain lui laissait une impression différente, mais tout aussi diffuse en raison des mouvements du sable au gré du vent. Cependant, une ou deux de ces suggestions éphémères eurent sur moi un effet aussi étrange que désagréable. D'une certaine façon, elles me paraissaient concorder horriblement avec quelque chose que j'avais rencontré au fil de mes rêves ou de mes lectures, mais dont je ne parvenais plus à me souvenir. Elle présentait un caractère effroyablement familier qui me poussait à jeter des regards furtifs et inquiets vers le nord et le nord-est de cette abominable terre stérile. Aux alentours de la première semaine de juillet, cette région nord-est éveillait chez moi un inexplicable mélange d'émotions. Je ressentais à la fois de l'horreur et de la curiosité. Mais plus que cela, il y avait cette tenace illusion de mémoire qui ne laissait pas de me dérouter. J'essayais toutes sortes d'expédients psychologiques pour expulser ces idées de ma tête, mais mes tentatives restèrent vaines. Je perdis aussi le sommeil, mais j'en fus presque heureux, puisque cela signifiait que mes périodes de rêve s'en trouvaient écourtées. Je pris l'habitude de faire de longues promenades nocturnes en solitaire dans le désert, habituellement vers le nord ou le nord-est, où la somme de mes nouvelles et étranges pulsions paraissait m'attirer subtilement. Parfois, au cours de ces sorties, je trébuchais sur des fragments presque totalement enfouis de l'antique maçonnerie. Et même s'il y avait moins de blocs visibles que là où nous avions commencé les fouilles, j'étais certain qu'il y en avait de grandes quantités sous la surface. Le sol était moins plat que dans notre camp, et les violents vents dominants dressaient de temps à autre d'éphémères mais fantastiques tertre de sable, ce qui avait pour résultat d'exposer de vieilles pierres enfoncées tout en recouvrant d'autres. J'étais bizarrement impatient d'étendre les fouilles à ce territoire et, cependant, en même temps, je redoutais ce qu'elles pourraient révéler. Il était évident que j'allais assez mal, d'autant que je ne pouvais m'expliquer l'état dans lequel je me trouvais. Ma réaction à une étrange découverte faite au cours d'une de mes marches nocturnes montre bien ma fragilité nerveuse. C'était le soir du 11 juillet, alors que la lune baignait les mystérieux tertres dans une pâleur singulière. En m'aventurant un peu plus loin que d'habitude, je tombai sur une grande pierre qui me sembla fort différente de toutes celles que nous avions vues jusqu'alors. Comme elle était presque entièrement recouverte, je m'agenouillai pour la désensabler à main nue. Ensuite, je l'étudiai soigneusement, en ajoutant à la lumière de la lune celle de ma lampe torche. Contrairement aux autres blocs de très grande taille, celui-ci était taillé à l'angle droit, sans aucune surface concave ni convexe. De plus, il semblait composé d'une roche sombre de type basaltique, totalement différente de la matière des fragments que nous commencions à bien connaître et qui était fait de granit, de grès et parfois de béton. Tout à coup, je me relevai, fis volte-face et rentrai en courant à toutes jambes. Ma fuite était totalement inconsciente et irrationnelle, et ce fut seulement à l'approche de ma tante que je compris vraiment pourquoi j'avais pris mes jambes à mon cou. Alors tout me revint. Cette étrange pierre sombre, je l'avais vue en rêve et j'avais lu des choses sur elle. Elle était liée aux pires horreurs évoquées dans les légendes du fond des temps. Ce bloc provenait d'une des antiques runes basaltiques qui inspiraient une forte crainte à la mythique grande race. Ces hautes tours sans fenêtres laissées derrière elles par ces menaçantes créatures extraterrestres à moitié immatérielles qui grouillaient dans les entrailles de la terre et dont les forces invisibles, douées de pouvoir sur les vents, étaient maintenues prisonnières derrière des trappes scellées, gardées par des sentinelles qui jamais ne dormaient. Je ne pus fermer l'œil de la nuit, mais dès l'aube, je compris combien j'avais été idiot de me laisser impressionner par l'ombre d'une légende. Au lieu d'être effrayé, j'aurais dû éprouver l'enthousiasme de la découverte. Le matin venu, j'informai les autres de ma trouvaille. D'ailleurs, Freeborn, Boyle, mon fils et moi, allâmes voir ce bloc anormal. Malheureusement, nous fûmes confrontés à un échec. Je n'avais pas vraiment repéré l'emplacement de la pierre, et le vent nocturne avait totalement transformé le relief des sables.